Québec, des écoles de Vermont en Bretagne, et le comité provincial de Saint-Sébastien, qui a travaillé avec un film, et qui a eu une des presses de Rouen. Le projet a eu une des presses des joignes qui s'y desserrent, Chaska, à Ventabren, qui nous garde le campus littéral des projets. Reprenons notre débat et profiter de tous les films qui avaient existé et des PowerPoints qui se mettent à passer, de remercier après la commune de Rouget, son personnel municipal, qui s'exprime à notre disposition depuis quelques jours, le personnel qui s'est réussi possible et bien une. Et qui sont restés force roi de l'énorme. Si vous ne comprenez pas notre langue, tout dit, je vous répète, mais nous remercions très vivement le personnel municipal de Rousset qui s'est occupé de cette salle, qui nous a reçus depuis mercredi dernier, qui s'est mis à notre disposition avec une extrême gentillesse, une très grande efficacité et professionnalité. Vraiment, ça ne nous était jamais arrivé, on est plus heureux que vous avez. Nous a fait l'honneur et l'amitié du président de la table ronde qui va traiter de la question contre l'identité d'exclusion de l'engue per recabra. Et là, je laisse la bendie plus tard, qui fait tour de l'éducation nationale de la circonscription, où il se trouve aussi. Avant d'adjoindre laquelle position est maître honorable, a exercé à fournir la profession d'architecte et a déjà quitté la création artistique du domaine des arts plastiques. Au premier semestre de sa carrière de l'éducation nationale, elle est maître d'école, puis directeur d'une des écoles réputables les plus difficiles du quartier nord de Marseille. Elle est occupée d'inspecteur dans le quartier des Montes et le fameux Zidane tire sous l'origine, et avant une expérience des antipodes de l'exil de Wallis et Futuna, si bien qu'après des missions départementales pour les signalements de la langue régionale et cadre maritime afin d'espoir de s'initier au provincial pour rester à l'autour de sa responsabilité. Vous remercie nous remercions de l'écriture d'accord de préparer la foule à ce débat et lié au politique en cas de l'idée d'une note personnelle, car en tout cas de dire que si vous êtes sur le futur, quand même c'est tout stagiaire, c'est plus juste de dire que c'est au contraire.
Contre l'identité d'exclusion de l'ordre pour rassembler. Alors, pour débattre et approfondir, les organisateurs ont bien fait les choses. Ils ont sélectionné donc quatre personnalités d'origine diverse. Marie-Françoise Delamotte, hein, qui a commencé par une formation scientifique dans le domaine de la pollution dans l'environnement, et donc elle a travaillé durant une dizaine d'années pour ensuite s'orienter vers l'enseignement, 10 ans dans les quartiers de Marseille, ça forme sa personne, on se retrouve là, et puis depuis maintenant 12 années, vous avez la direction de l'école publique, qui est dans ma circonscription, donc c'est un peu en plus, de travailler avec vous. Et c'est vous qui avez été à l'origine de la transformation de cette école en centre d'enseignement continu en langue régionale. Vous avez une habilitation dans la langue pour enseigner en langue régionale depuis 14 ans. Vous êtes titulaire de Master 2 de littérature occitane, 2 ans pour les étudiants, c'est ça, voilà. À l'université Montpellier, vous êtes installé à Montpellier. Vous êtes également vice-président de la LADOC et également secrétaire du CEPDOC. Voilà. Je ne présente pas donc M. Lagarde, puisqu'il a déjà fait une intervention, donc je ne vais pas revenir et vous être très bien présenté. Nous avons également donc M. Mélanie, qui est donc directeur du centre d'accueil de loisirs de la ville de la Ciotat, et qui est le porteur d'un projet très intéressant, le culture provençale dans le cadre du périscolaire. Donc c'est une politique qui est vraiment très intéressante au niveau de la ville de La Ciotat, puisque cette politique, vous allez vous en parler, hein, a choisi d'orienter le périscolaire et toute l'approche culturelle autour notamment de la région. Et puis, nous avons Mathieu Poitavin. Alors Mathieu Poitavin, du coup, je n'ai pas pu empêcher d'aller sur Internet. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé ça super. Voilà. Donc, Mathieu Poitavin, c'est avec deux T. Hein. Mathieu, donc, hein, avec deux T. Et tellement de casquettes, cette jolie tête espiègle et cigarette. Donc là, vraiment, ça va faire fort. Hein. Voilà. Mais anime. Son écriture s'inspire du cinéma, de la chanson, du culte, de la littérature populaire, surtout de la BD. Il espère une BD tradition et modernité, bercée par la littérature camarguaise et classique de Darbo et Galtier, mais aussi par les séries américaines d'HBO. Il enseigne l'occitan provençal et les arts visuels à Orange. Le Mathieu que l'on connaît à Orange ressemble à un professeur de passe de provençal en collège et au lycée, ou encore à l'auteur de romans fantastiques en provençal et en français. Mais Mathieu est également la photographie avec une magnifique exposition où il signe le récit des clichés de Stéphane Barbier, un parcours photographique à la première personne, légendé par les tests bilingues français-occitan, Nîmes-l'Occitane sur les pas de l'absente. Mathieu sait aussi, et avec tellement de bonheur, la musique et la chanson. Depuis 10 ans, le troubadour Orangeois accompagne la chanteuse Lisa, dont il a signé les paroles en provençal, de nombreuses chansons. Nous avons vraiment la personne très riche qui va donc présenter, dans l'approche que nous allons faire, le point de vue donc culturel, tant de casquettes et tant d'harmonie. Donc j'ai demandé à Mathieu Potamet de donner, à travers les questions, l'éclairage donc plutôt autour de l'approche culturelle, ça empêchera pas de débattre. Donc bien sûr, M. Lagarde aura l'approche linguistique. Madame Lamotte, vous prendre le rôle de l'approche par l'enseignement, par tout ce qui est psychologie d'enfance et l'éducation. Et puis, Monsieur Elnabi, vous allez avoir le rôle de l'étage politique, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité, pour essayer de débattre. On a déjà eu un éclairage tout à l'heure au niveau de la région, mais je crois que parler du terrain, de ce qui se passe au terrain, il va donner, je crois, du corps à tout ce qu'on. Alors, vous allez voir que globalement, les points que nous allons aborder reprennent des points qui ont déjà été abordés, qui ont été abordés d'un point de vue personnel, théorique. Et là, je crois que le parti pris va être justement de voir, à partir de cet éclairage spécialiste, de reprendre un petit peu les données du corps. Donc, nous allons repartir, sur un élément très simple, sur cette retournée, cette notion d'identité. Et la première question, si vous voulez, auprès de Madame Lamotte, hein, on a abordé la notion d'identité personnelle, la notion d'identité sociale ou d'identité collective, et l'identité en psychologie notamment, qui est un des points qui est essentiel dans le rôle de l'enseignant. Madame Lamotte, qui enseigne aux élèves de classe d'âge maternel, donc au tout début de la construction de leur identité, comment vous voyez-vous la construction finalement de l'identité d'un élève, d'un petit enfant? Comment ça se passe?
Je pense que le...
Tiens, vous voyez, ça me met
comme ça. Voilà, le petit enfant, quand il arrive à l'école, il est très centré sur lui-même. Donc il n'y a vraiment que lui qui existe. L'enfant de 2-3 ans joue à côté de l'autre, mais il ne voit pas l'autre. Et le rôle de l'école, ça va être de le faire sortir de sa bulle ou de faire rentrer les autres à l'intérieur de cette bulle. Donc il a déjà une identité qui lui est transmise par sa famille, mais surtout son identité, c'est lui, et il va falloir lui apprendre à vivre ensemble, lui apprendre à vivre avec les autres et construire un univers commun où tous les enfants d'une école et puis tous les partenaires qu'il va rencontrer vont pouvoir vivre. Donc il va falloir qu'il s'approprie un univers Et voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je vois l'identité. C'est une, il y a déjà un noyau qui existe et il va y avoir une ouverture sur le monde qui va être accompagnée par l'école.
Alors c'est très intéressant parce que dans l'exposé chez Lagarde, on voyait qu'il y avait une tension à construire entre identité individuelle et identité collective. En maternelle, je crois que vous êtes vraiment au cœur de cette tension. Comment ça se passe en fait?
Alors, comme je vous le disais, l'enfant arrive, il a déjà une histoire familiale qu'il a intégrée, et donc il doit s'ouvrir au monde. Donc, les enfants arrivent avec une langue, quelquefois une autre langue en construction aussi. Les situations sont vraiment multiples. Il y a des enfants qui sont originaires de cette région, qui sont nés dans la région. Il y en a qui sont d'origine étrangère, des enfants qui viennent des quatre coins de France pour des préoccupations économiques de leur famille. Et donc, il va falloir arriver à faire communiquer tous ces mondes. Et c'est pas toujours évident. Pour donner des exemples, moi j'ai connu un enfant espagnol, d'origine espagnole, qui refusait la langue de ses grands-parents, et quand ses grands-parents venaient le chercher à l'école, il le refusait complètement, il se refermait, parce que pour lui, la seule langue qu'il entendait à l'école, il imaginait qu'il n'y avait qu'une langue et que c'était le français. Et cet enfant a accepté son bilinguisme quand il s'est ouvert avec le provençal. Donc il y a une prise de conscience et une ouverture sur le monde et qui n'est pas toujours simple. L'enfant a aussi une situation de famille. Il va être son enfant unique, il peut avoir déjà une fratrie. Donc il y a tout à inventer pour qu'on arrive à vivre au mieux ensemble.
Monsieur Lagarde, par rapport à votre exposé, notamment dans tout ce qui était le rapport à l'identité sociale, si j'ai bien compris, je crois qu'à un moment donné, les caractéristiques, c'est pouvoir ordonner l'autre, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans l'autre. Comment ça se passe, de votre point de vue de linguiste, comment, à travers la langue, je peux ordonner l'autre?
D'abord, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question, mais ce que m'inspire l'intervention précédente, c'est le fait que chaque individu, chaque enfant est dans une construction de soi qui passe beaucoup aussi par le langage. En fait, on s'aperçoit que les enfants sont très productifs, sont très imaginatifs, ne procèdent pas à l'induction, c'est-à-dire ils cherchent à se construire un savoir. C'est-à-dire que d'un côté, les adultes leur imposent un certain nombre de désignations. Quand on montre un objet, on leur dit ça, comme ça. Et donc ils l'apprennent, mais en même temps, ils ont un travail créatif très, très important de ce côté-là. Et donc c'est ce qu'on appelle la fonction métalinguistique. En fait, la réflexion qui est la norme, qui passe aussi par la créativité. Par exemple, à partir de certain nombre d'exemples, on pourrait dire un mot, comment fait-on pour le mettre au pluriel, comment fait-on pour le mettre un verbe, comment fait-on pour le mettre au passé. Évidemment, les enfants ne catégorisent pas de cette façon-là, mais ils se créent en quelque sorte des recettes. Et donc, je crois que c'est très important justement de s'insérer dans ce processus-là. C'est-à-dire, l'enfant travaille, et donc, en fait, un accompagnement dans ce travail, justement, entre plusieurs langues, peut être extrêmement bénéfique. Et justement, participer de sa socialisation, en fait, c'est ça. Et puis, la deuxième chose, c'est justement, vous parliez d'un enfant qui était au contact de l'espagnol et du français, du provençal. Il faut justement essayer de valoriser auprès de lui, autant que faire se peut, précisément cette capacité qu'il peut acquérir à se construire différents répertoires et à passer de l'un à l'autre. Autrement dit, il peut se créer, il est en train de se créer un répertoire dans la langue de la famille, dans la langue de son environnement social, dans la langue de l'école. Établir un certain nombre de ponts entre ces répertoires, c'est une manière aussi, justement, de l'inciter à développer ses compétences métalinguistiques qu'il pourra par la suite réinvestir, l'apprentissage d'autres langues. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est au miroir des différences qu'il peut aussi être encouragé à développer justement ses capacités.
Et très vite, on les voit essayer de faire des phrases par essai-erreur, mettre tout seul en marche une fabrique de mots, une fabrique de conjugaisons, que ce soit en français ou en provençal. Mais nous, dans nos classes, on a tous des passés simples incroyables dans les temps du récit qui arrivent dès 4 ans. Hein, et en provençal, dès qu'ils ont compris qu'on a des diphtongues et des triphtongues, ils fabriquent tout le temps des mots pour s'exprimer et parce qu'ils ont bien compris ces composantes de la langue.
Alors, tout à l'heure, dans l'exposé, c'est donc clair, là, on a vu les notions, notamment de Barthes, de Kirk. Il y a d'autres sociologues qui ont travaillé, notamment, je pense à Bourdieu, qui parle d'habitus, qui fait qu'en gros, la part de choix individuel est finalement artificielle et limitée. Il y a Goffman aussi qui a beaucoup travaillé sur le langage dans l'acception et le fait que la possibilité des normes extérieures sont une vraie pression sur les dictées. Alors, je me tourne vers le représentant culturel, donc le point d'avant. En termes, donc, vous, de créateur, je m'adresse là au créateur, à vous qui êtes en termes de créateur, comment un individu dans son individualité résiste à cette pression, ces éléments qu'il peut y avoir d'influence? Comment ça se passe? Votre identité de créateur, comment vous arrivez à la faire résister, à la faire s'épanouir?
C'est pas une résistance, en fait, c'est parce qu'on prend ce qui nous entoure, donc on n'est pas dans... La résistance, je l'ai quand je suis... J'ai plusieurs casquettes, donc syndicaliste, enseignant, prof de cinéma, enfin bref. Mais quand je suis enseignant, je suis plus dans cet état de résistance. Mais moi, dans un petit vécu que j'avais à la création, il y a Lisa qui est avec moi, on travaille ensemble depuis 10 ans, moi la chanteuse, j'ai fait quelques textes pour elle, mais dès le départ, on n'était pas dans une écriture ou une création de résistance. Moi, je suis plus dans le ressenti, dans le ressenti des mots. Alors, dans le dernier livre que j'ai fait sur l'hymne l'Occitane, sur les pas de l'absente, qui est un livre de photographie, c'est celui qui nous suit. Avec Stéphane Barbie, évidemment, on est parti sur une quête qui est l'absente à Nîmes. Est-ce la ville, est-ce la langue, est-ce la femme oubliée ou qu'on recherche? En tout cas, il y a plein de termes. Alors derrière, si c'est Nîmes l'Occitane, évidemment, ce sera cette quête d'engagement, de langue, etc. Mais on est plutôt dans le ressenti. Voilà. Donc, on fait avec ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que, là, dans cette promenade, c'est que me disaient mes anciens chemins, mes vieux arbres, et mes vieux murs, et que me dit la ville. Quoi. Donc, c'est plutôt du laisser-aller que de la résistance.
Monsieur Adetti, vous qui êtes donc, alors là, on va essayer de parler sur une thématique qu'on n'a pas encore abordée, l'identité en géographie, l'approche en géographie. Ce qu'on appelle scientifiquement l'identité lyrique, c'est le terme qui dit, c'est l'hypothèse comme il y aurait une singularité spécifique liée à l'espace avec une invariabilité au temps. La ville nationale est une spécificité véritablement d'identité qui est propre à la ville nationale.
Bonjour à tous. C'est compliqué de parler des citadins en termes général, parce que chacun de nous est singulier. Moi, je suis pas d'adoption. Il y a des citadelles qui sont là depuis des générations. Il y a des différentes immigrations qu'il y a eu sur la ville. Ce qu'on peut dire sur la Ciotat, que le Ciotadel est assez insulaire, comme il a une pensée assez insulaire. C'est quelqu'un qui aime bien rester dans sa Ciotat, qui n'aime pas beaucoup aller à l'extérieur. Mais de l'autre côté, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a une forte identité maritime. Donc il aime prendre le bateau, il aime partir, il aime voir d'autres paysages, mais il revient à sa ville. Donc il y a cet attachement à la ville qui est intéressant. Un autre point qu'on peut citer, c'est aussi l'identité ouvrière de la ville. On sait que le chantier naval de la Ciotat a construit la ville et sa population par différentes immigrations. Donc, parler tout à l'heure de syndicalisme et de syndicalisme, donc la Ciotat aussi a cette puissance syndicaliste en elle et cette résistance dans le Ciotadin qui aime toujours être Ciotadin et pas Marseillais. Et par rapport à l'identité provençale, on la retrouve, vous le savez, la Ciotat c'est le berceau de la pétanque. Donc c'est comme un sport qui certains le dévalorisent, mais qui est un sport de précision et de concentration, et c'est aussi un sport qui crée du lien. On peut trouver à la Ciotat des triplettes ou des doublettes faites de gens plus âgés, de jeunes ou qui viennent de différents endroits.
Il est un bout ici, hein, une démonstration. Voilà, alors on va avancer un petit peu, et là, le deuxième thème sur lequel on s'est penché, c'est finalement une question. En quoi l'identité peut-elle être exclusive? Et je crois qu'il y a déjà eu des éléments de réponse dans l'intervention tout à l'heure de Saga. Et en quoi l'identité peut-elle évoluer vers le communautarisme? Alors, il est certain que, à travers tout cela, le communautarisme, dans les définitions que l'on peut trouver, c'est un côté actuellement en France qui est péjoratif, mais dans les définitions que l'on peut trouver, c'est une forme d'ethnocentrisme, de sociocentrisme, qui donne à la communauté une valeur plus importante qu'à l'individu avec une tendance à remettre sur soi. Voilà. Alors, dans le cadre scolaire, existe-t-il, avez-vous rencontré des identités ou individuelles ou sociales qui s'orienteraient vers quelque chose qui serait sur le mode d'une identité spécifique?
Alors, c'est sûr que quand on arrive sur une école, on a une mosaïque de communauté, une mosaïque de provenance, de par provenance géographique, et ça, on le sent très vite dans les identités des familles, et à la fois c'est la racine de la famille, donc avec une expression culturelle sur les fêtes, des partages, donc il peut y avoir un volet très intéressant, parce qu'on va pouvoir faire une mise en commun, mais d'un autre côté, ça peut être aussi un repli. On voit dans certaines écoles, par exemple, quand les enfants invitent des petits copains, ils invitent des petits copains qui ont la même origine ou la même seconde langue à la maison. Donc, il peut vite y avoir des replis. Moi, j'ai connu une sortie scolaire justement, on était allé à l'atelier bleu à la Ciotat. Et une des communautés avait délégué une maman qui ne s'occupait, alors pour dire le nom de la communauté, que des enfants vietnamiens. Et donc cette maman avait dans son sac des bonbons, et au moment du pique-nique, elle était entourée des enfants de sa communauté, et elle donnait un bonbon en regardant que les autres ne voient pas, que les enseignantes ne voient pas. Et elle avait été envoyée pour s'assurer que tout se passe très bien avec les enfants de cette communauté. Donc il y a du travail à faire. Bon.
Et Haribo aussi, vraiment, pour Haribo. Monsieur Lagarde, alors, est-ce que le langage ou un langage peut être explicite?
Oui, c'est-à-dire que le langage qui a une fonction essentiellement de communication, le langage, il a deux fonctions. Il y a une fonction de communication et il y a aussi une fonction symbolique. C'est-à-dire, au niveau des représentations, le langage porte l'article. Donc, le langage est fondamentalement, c'est pour communiquer. Mais il se trouve aussi qu'on peut utiliser le langage pour communiquer entre soi. Et donc on en revient à la question de la communauté. Et j'étais en train de penser, parce que je prévoyais votre question, je vais un peu anticiper, comment est-ce que je pourrais vous répondre. Moi, j'habite à Perpignan, il y a une communauté gitane, elle parle une certaine forme de catalan. Et bon, comment dire, l'articulation, le phrasé, de ce catalan-là est volontairement inintelligible aux autres, que ce soit des gens qui ne comprennent pas le catalan, que ce soit des gens qui comprennent le catalan. Il y a une fonction qu'on appelle cryptique, c'est-à-dire que seuls les initiés sont capables de communiquer, et c'est ce qui délimite, disons, les frontières du monde. On parle entre soi d'une manière qui est, comment dire, qui est transmise héréditairement et qui donc est faite pour ne pas communiquer. Bon, un autre exemple, j'ai vendu une voiture à un acheteur maghrébin il y a quelques années, qui est venu chez moi, accompagné d'un certain nombre de familiers et d'amis, et donc la négociation a été menée entre eux en arabe, de façon à ce que je ne participe aux attendus, disons, de cette négociation. Donc, vous voyez, le langage, que ce soit une variété ou que ce soit une autre langue, comment dire, inclut un groupe et exclut des membres, ceux qui n'en sont pas membres.
Et est-ce que vous pensez que l'accent, l'intonation qui est donnée, je pense actuellement à certaines de nos lycéens, qui parle fort. Alors, comment gérer l'accent? Est-ce que c'est de l'exclusion, ou au contraire, c'est une recherche d'identité, au contraire, de quelque chose qui serait une reconnaissance de groupe?
Alors, je pense que la façon de parler nous caractérise, c'est-à-dire les accents régionaux, bon, moi, par exemple, qui ne parle pas le français standard, il y a des fois, en tant qu'universitaire, il y a des collègues qui me disent. Me font comprendre ce que je dis n'est pas trop idiot, mais que vous savez, c'est l'accent. On vous le pardonne, voilà, mais quand même, voilà, je referme la parenthèse, mais donc pour en revenir au groupe, effectivement, c'est une façon de se reconnaître entre soi. Hein, de la même manière que les codes vestimentaires sont aussi une manière de se reconnaître et d'exclure. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait vrai. De toute façon, en particulier les adolescents sont très sensibles justement à la norme sociale, au respect de certains nombres de codes qui les individualisent et en même temps les rassurent parce qu'ils sont dans la norme.
Alors, c'est vrai qu'il y a un petit fait inversé, je vais me tourner vers vous, vous qui travaillez avec justement des collégiens, identité, identification. Comment vous arrivez à gérer ça, ou à cet âge où justement on est un petit peu entre les deux là?
Justement, moi je rejoins ton propos, c'est que, et le propos du monsieur, c'est que le Provençal, quand je suis arrivé en CEP, à Orange, il y a quelques années, c'était une volonté un peu politique de cet établissement. On était à la vitrine positive de l'établissement, justement. Pour réconcilier toutes nos identités. Et immédiatement, il y a quelque chose de magique. En plus, j'étais débutant à l'époque, donc on peut dire que c'était évident. Il y a quelque chose de magique qui s'est fait avec les familles, surtout les familles turques, qui ont retrouvé. Alors, c'est ce qu'on disait dans les. Je ne sais plus qui disait ça dans la journée. C'est que transmettre une langue, c'est aussi, je crois que c'est quelqu'un dans le public, c'est transmettre une façon de cuisiner, c'est une façon de chanter, une façon de raconter, et c'est du vivre ensemble. Et le problème, c'est que l'identité standardisée française, dans sa transmission, est en train de perdre cette transmission de cuisiner, de chanter, de danser. Et le grand de Provençal, lui, est appelé à réveiller les mémoires. Mais dès le départ, dans cette histoire de Zef, c'est qu'on a eu des familles turques qui nous ont apporté. Alors moi, je me suis régalé de la cuisine, des façons de raconter des histoires, parce que eux, chez eux, ils avaient des façons particulières à leur identité. Et ça, on s'est tous enrichis, et surtout nous qui avions tous perdu dans notre identité, si je peux dire, grâce au Provençal, on avait réussi cette transition-là. Donc, on jouait du Nasreddin tout le temps, mais on ne s'en empêchait pas de jouer Mistral. Mais moi, j'avais ma petite fierté intérieure face aux jalousies des autres collègues, parce qu'on était heureux d'être ensemble. C'est qu'on avait ça en plus. Il n'y avait qu'en Provençal que les gens pouvaient apporter de leur culture. Et les mamans étaient invitées chez nous, la porte était ouverte. Donc, et c'était vraiment fédérateur. Voilà.
Mais est-ce que cette force, ça ne vient pas justement parce que le Provençal étant une langue minoritaire, on l'a dépassé par notre affectif.
C'est ça.
Et, voilà. Et le français étant la langue majoritaire, on l'impose. Donc, on arrive à toucher les familles qui, elles aussi, ont.
Il y a le droit de la littérature française, de la langue française, etc. Et que, oui, et puis de ce côté minoritaire, etc. Il y a l'affectif. Et je crois que tu l'as dit, c'est l'affectif. Et ça gêne beaucoup.
Voilà, le secret à partager.
Oui. Bien sûr, c'est ça. Tu as tout dit.
Si elle a dit, est-ce que penser qu'une action politique peut, quelque part, développer. Et le principe d'identité exclusive.
C'est compliqué pour moi de parler de cette question.
Je travaille en municipalité de la Ciotat.
Ah.
C'est un peu compliqué, mais je pense que, comme toute ville, de petite ville et moyenne ville, ces villes-là souffrent de problèmes d'identité de leur population, qui est dû d'une partie à la désertification des centres-villes et à la gentrification des centres-villes, c'est-à-dire le changement de population. Populaire, une population peut-être plus aidée. On voit toujours l'ethnocentrisme que d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi un autre ethnocentrisme. Tout à l'heure, vous parlez d'ethnocentrisme, notamment, et vous disiez que. Moi, j'ai fait un travail sur un quartier, sur la ville de la Ciotat, où le constat a été que la culture d'origine prédominait sur la culture de naissance. Et ce constat est fait parce que le politique n'a pas fait son travail. C'est-à-dire que si les gens se regroupent entre eux et c'est leur culture d'origine qui prédomine, c'est que la culture du pays où ils vivent, où ils sont nés, n'a pas été convaincante et n'a pas été pertinente. Bon, je ne parle pas de la population, je parle de manière générale.
Alors, ça permet de rebondir sur la question suivante, c'est finalement, on avance toujours, et la question, quelles seraient les caractéristiques d'une identité inclusive? Alors, on pourrait démarrer par, l'école.
À l'école, ça va être écrire une histoire commune. Donc, ça va être s'ouvrir d'abord à accepter ce que sont les différences qui arrivent, arriver d'abord à faire avec toute cette richesse qui arrive à l'école, et puis se placer dans la perspective des années que l'enfant a passé à l'école pour construire ensemble cet avenir. Donc une réflexion des équipes qui va dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la langue, mais ce qu'on veut, c'est construire un citoyen. Et le citoyen, ça ne va pas être uniquement un locuteur. On va être obligé de prendre en compte les problèmes environnementaux. Et ça va être vraiment d'avoir une vision du citoyen qu'on veut avoir pour ces enfants qui arrivent à l'école. Développement durable. Envisager l'angle des langues parlées. Au travers de tout ce qu'on veut comme société, d'un projet de société.
Alors, dans le témoignage, monsieur a dit, oui, je crois que vous avez, au niveau du périscolaire, justement, développé une expérience, et on en a un petit peu parlé, je pense que ce serait intéressant que vous puissiez très synthétiquement nous présenter quel a été votre pari dans la ville de la Ciotat sur une construction d'une entreprise.
Tout d'abord, on a commencé par faire un constat, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, toute ma démarche a été, pas que moi, donc moi et mes collègues, toute ma démarche a été de créer un socle commun pour que les enfants ciotadins qui viennent d'ici ou d'ailleurs, ou qui sont de là depuis des générations ou non, se sentent ciotadins Donc là, il y a la notion d'un passé en commun, un présent et surtout un futur en commun. Et je pense que si on arrive à un futur en commun, on peut arriver à inclure ces enfants-là dans nos sociétés. Donc on a la chance d'avoir une élue qui nous a beaucoup aidé sur ce projet parce qu'elle est imprégnée par ce projet-là. Donc comment faire pour créer un socle commun? On s'est tourné vers un accent. Il y a un accent qui est commun. Moi j'étais à Londres il y a 4 ans. Je parle anglais, je parle anglais. J'ai entendu quelqu'un parler français, il avait l'accent de chez nous, il y avait une empathie qui s'est de suite construite et on a pu communiquer, discuter, m'a montré où je devais aller. Alors que je ne suis pas de la même origine. Et à la Ciotat, c'est ce qu'on a décidé de faire, de se dire qu'il y a un socle commun. Ce socle commun peut briser des barrières et des digues que certains essaient d'ériger. Et c'était la culture provençale. Pas que la langue, on a travaillé sur la culture, donc culture culinaire, sportive ou langue. Donc on a, par exemple sur le sportif, on a travaillé sur les joutes. On a réussi à restituer les joutes à la Ciotat, ce qui est quelque chose de magnifique. Où on a des enfants qui venaient de quartier ou non, qui venaient pratiquer les joutes et on leur a expliqué ce que c'était comme sport, pourquoi il y avait comme la pétanque, comme la balle au tambourin aussi, qui était un sport qui a été délaissé. On a fait aussi ça par rapport à la littérature. En fait, la première action qu'on a mise en place, en tout cas sur l'école où je suis, c'est de demander aux enfants de faire une chasse aux mots. Donc, c'est de demander à tous les enfants de l'école d'aller chercher des mots chez eux qui ont une connotation provençale. Et donc, les enfants sont revenus avec des. On a eu des centaines et des centaines de mots. Donc ils ont demandé à leurs parents, à leurs grands-parents, aux voisins, donc ça crée du lien, ça crée de l'intergénérationnel, donc ça c'était intéressant. Et après avec ces mots-là, on les a utilisés pour faire du théâtre d'improvisation par exemple, où les enfants ont pris ces mots-là, ils se sont appropriés, donc l'usualité aussi de provençal, où ils ont pris ces mots-là, ils les ont utilisés pour des pièces de théâtre.
Voilà. Oui, ce qui veut dire qu'effectivement l'apprentissage de la langue régionale est bien implanté dans un territoire, puisque le travail que vous avez pu faire encore. Pour reprendre l'expérience que j'ai compliquée, voilà. Donc ce qui est qu'effectivement, il y a bien une spécificité de la langue régionale de par son interprétation géographique.
Et surtout, ça a été quelque chose qui a rassemblé. Par exemple, le quartier où je suis, qui est le quartier de la Garde, on a le parc du Mugel. Les enfants ont compris pourquoi ça s'appelle le parc du Mugel, pourquoi ça s'appelle les calendes de Figaro. Et ça, c'est aussi intéressant parce que l'enfant doit s'enraciner dans son territoire pour se sentir bien. Et être acteur dans son territoire, c'est s'enraciner dans son territoire. Et la culture en France.
Alors, je voudrais ajouter un texte là de Pianiste. Voilà, un peu, qui parle justement de cette intervention qui est faite à l'entretien d'Adam. Je vais vous lire. Elle traite, donc, justement, ce pianiste, traite de les sous-cultures éphémères de consommation sans racine, uniquement conçues pour faire de l'argent, des sous-cultures qui véhiculent la violence, le mauvais goût, et dont l'objectif est d'unifier la pensée, de la mondialiser, de lui faire ingurgiter un fast-food indigeste qui se vend très bien. Cette sorte d'intégrisme de la rentabilité se manifeste, en ce qui concerne la musique, par des intégrales ou par un look. Que les lois du marketing commercial nous imposent, on globalise de pseudo-musique en fonction des critères strictement mercantiles, comme l'on globalise le mauvais goût, l'aliénation, la pauvreté et la misère. Alors, monsieur Bonnard, vous avez choisi d'écrire en bilingue. Donc, on est assez loin de ce point de vue de la sous-culture. Pourquoi vous avez fait ce choix?
Parce que justement, on parlait encore, pour rentrer sur notre débat, c'est avoir la langue. Pas utile, mais sociale, elle est visible. Donc ça passe par la signalétique, ça passe. Moi j'ai refait toute la signalétique avec la région, à l'époque, j'ai refait toute la signalétique de mon lycée pour qu'elle soit visible, elle indique les portes, les étages, etc. Donc c'est des élèves qui ont fait, hein, ils ont fait les plans, ils ont fait le budget, etc. Ça fonctionne encore. Et après, comment être visible? Alors, je ne parlais pas de rentable, mais en tout cas, offrir notre poésie, notre littérature. C'est de ne pas se contenter d'être diffusé dans le milieu occitan ou provençal, qui nous aide beaucoup, hein, mais de se faire éditer. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Atelier B, c'est de se faire éditer par un éditeur qui n'est pas du tout concerné par la cause occitane. mais qui peut le diffuser alors dans les librairies occitanes, mais aussi par la FNAC, et qui peut se commander un peu partout en France. Et dans le bilinguisme, pour y revenir, c'est justement, moi j'ai pas envie de me fermer, parce qu'on avait un point où moi j'ai appris l'occitan, parce que j'ai fait un effort de lecteur, et avec les livres de Lio, de Florian Vernet par exemple, j'étais content de ne pas avoir la traduction et de faire cet effort, et pour mériter mon histoire et ma littérature, il fallait que je fasse l'apprentissage de la langue, et c'est pour ça que je l'ai appris, c'est pour lire Florian Vernet. Mais maintenant, on a une époque où je pense pas, c'est pas jugé mes contemporains ni les jeunes, j'ai pas envie de ça. Mais on est moins présent en tout cas. Donc il fallait que, pour offrir les histoires qu'on peut faire, c'est au moins permettre le bilinguisme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le choix du français, du provençal. C'était aussi parce que dans ma famille, c'était une frustration de ne pas pouvoir lire ce que je pouvais raconter. Et d'offrir, parce que je ne sais pas si un livre sur une bibliothèque qui a été lu en français, on y peut y retourner un jour, c'est-à-dire il y avait cette langue aussi, je peux m'y intéresser, je vais m'y mettre, et petit à petit, mais sans force, quoi. Donc avec une histoire, avec des photos, avec des dessins, ce sera plus facile d'y venir, je pense. Donc le bilinguisme, je trouve que c'était accepter l'autre, et justement, je veux dire, on peut offrir des choses, alors les livres de photos, c'était offrir des choses belles, des belles images, et pour montrer que la langue disait des choses belles. Parce qu'on est quand même encore réduit, moi je suis encore réduit dans la profession, ça fait des années que je suis dans le lycée, petit rigolo, à celui qui a écrit à l'ordinateur, mais je croyais que tu écrivais dans ta cabane, tu écrivais sur des feuilles de plastique, et aucune conscience de que quand même, voilà, j'enseigne aussi le cinéma, j'ai fait des études de cinéma, j'ai écrit, on a gagné un concours de la chanson minoritaire avec Isa, l'Eurovision. On a fait des choses qui nous semblaient, alors je ne sais pas si elles le sont, mais qui nous semblaient belles. Et voilà, c'est qu'on a rencontré notre langue qui est belle au départ avec l'histoire des troubadours. Et on dit des choses, c'est notre musique. Mais notre musique, malheureusement, on a besoin maintenant de la béquille du français pour pouvoir la diffuser. Et malheureusement, pour pouvoir se vendre, voilà. Mais quand j'enseigne le cinéma et que je rejoins mes occitanistes et mes jeunes cinéastes, je les fais toujours se rencontrer. Parce qu'ils ont ils ont l'esthétique de la langue, eux de l'image. Et au bout d'un moment, ça arrive pas souvent, et on fait des festivals de cinéma méditerranéen aussi, beaucoup à Montpellier, hier on était à Marseille. Et parce que, voilà, il faut que la sensibilité, les sensibilités, les langues se rencontrent. Donc, on ne pouvait pas être unis que dans les livres, et j'ai mis le... Alors, ça peut être critiquable, hein, mais on a fait des versions en français.
Alors, on va un petit peu avancer, et la question, en gros, c'est maintenant, en quoi une langue peut-elle assembler? Alors, vous avez abordé, M. Lagarde, commencer à aborder toute la question finalement de l'aspect économique de la langue, notamment de la langue véhiculaire, et notamment actuellement le constat que l'on fait dans le choix du parcours des langues, qui est un peu trivial, mais il y a tout de même une recherche du meilleur rapport dans les parents d'élèves, dans les élèves, du meilleur rapport avec ce manga. Hein. Et la recherche de la langue véhiculaire qui apporte le plus, c'est un petit peu ce qui fait le choix de pas mal de jeunes étudiants dans le choix des langues. Alors, est-ce que finalement, l'approche strictement économique de la langue est-elle un facteur de rassemblement?
Alors, avant de vous répondre, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. En fait, ce que l'on voulait dire, c'est qu'en tant que professeur occitan, vous étiez stigmatisé.
Tout le temps, il y a des gens qui sont intelligents.
Parfois, ça marche. Ce qui pousse, je voudrais mettre sur le tapis la question des stéréotypes, justement, qui participent de l'exclusion. Voilà. Avant de répondre à votre question, c'était ça. Parce que, effectivement, la catégorisation négative de l'autre fait que, précisément, on est dans l'exclusion. Et que ce n'est que lorsque on fait. Lorsque l'on manifeste un respect justement pour l'autre à travers sa différence, à travers la diversité, hein, que l'on peut évidemment construire des parcours comme celui que vous avez montré à la Ciota ou dans votre lycée. C'était le premier choc. Alors, ensuite, fait au niveau des choix institutionnels. Au niveau des choix institutionnels, on peut dire que toute politique linguistique, dans quelque domaine qu'elle soit, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine, par exemple, des médias, enfin, de la diffusion culturelle, de l'administration, par exemple, on dit est-ce que les collectivités misent des fonds dont elles sont comptables vis-à-vis de leurs électeurs sur une politique de diversification, sur une politique, disons, qui va mener, par exemple, à la promotion de la langue régionale. Donc ça, comme je le dis, évidemment, c'est fonction aussi du contexte. C'est-à-dire que lorsqu'on s'en remet aux politiques, il faut penser que ces politiques passeront devant les électeurs et devront justifier ces investissements. Donc il faut que la politique qui soit menée soit en rapport aussi avec la demande sociale. C'est-à-dire, la politique peut être en décalage, c'est-à-dire elle peut prendre une initiative pour anticiper, en quelque sorte, infléchir, mais elle ne le peut que dans une certaine mesure, sinon, quand on dépasse un certain seuil, la sanction vient, et la sanction vient par rapport à appliquer aux politiques, aux hommes politiques, mais aussi à l'objet qu'ils ont défendu. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de sensible. Ensuite, la rentabilité, disons, évidemment, dans le choix des langues, c'est une rentabilité que certains voient, comment dire, parfois par le petit bout de la lorgnette. Je prendrai un exemple, c'est l'apprentissage, le développement actuel de l'enseignement du chinois, le mandarin. Bon, c'est un effet de mode. Tout le problème étant que pour, comment dire, manipuler avec suffisamment de compétences les idéogrammes du chinois, les tons, etc., bon, ça demande un effort très très important. Alors, est-ce que, en dehors d'une perspective de commerce avec la Chine, entre parenthèses très illusoire, parce que les Chinois sont partout, moi j'en ai plein les cours de master en particulier, j'ai toute une colonie de Chinoises qui sont très respectueuses, c'est très clair. Voilà, et au fond, eux, on a l'illusion qu'il faut apprendre leur langue pour commercer avec eux, alors qu'ils le font essentiellement à travers l'anglais. Donc en fait, vous voyez, parfois, des politiques familiales qui reposent sur des malentendus. Autrement dit, ce n'est pas. On escompte beaucoup de cet apprentissage, et en soi, il est aussi valable que notre, mais au fond, est-ce qu'il va être véritablement rentable en dehors de ce que Bourdieu, puisque vous en parliez tout à l'heure, a appelé la distinction, c'est-à-dire le fait d'être dans une filière différente des autres. Croyez-le moi, je vais. Alors, dans le collège où ma fille, il y a, elle ne le fait pas le chinois, mais il y a des copines qui y vont, qui vont en cours de chinois. Et alors, l'élément, disons aussi, c'est l'élément incitatif, c'est que sont organisés des voyages en Chine. Et donc, les autres sont frustrés.
À quoi ça tient? Bien, Bertrand, Bertrand, donc on arrive un peu à la fin. Alors, dernière question finalement, qui me permet de revenir à la conclusion. Bon. En quoi une langue régionale, et plus spécifiquement la langue d'oc, peut-elle jouer un rôle d'élément rassembleur? Alors, Mme Lamotte.
Je crois que vous avez dit au début, hein, vous avez dit que la langue, elle était là. Donc, vous avez donné la réponse avant de lancer le débat. La langue, elle est là, elle est dans la rue. La langue, c'est le nom des plantes dans la transitoire. C'est une musique. Puisqu'elle est là, autant en profiter. Hein, c'est une richesse qu'on a, c'est une richesse à partager. Il ne faut pas oublier qu'une langue, c'est toujours de la communication. Apprendre du chinois, oui, si on pense qu'un jour on va pouvoir communiquer en chinois. L'anglais, pour beaucoup, ça va être lire le mode opératoire du photocopieur, mais ça ira pas plus loin. Quand on prend le provençal comme langue de communication, c'est infini. C'est faire de la botanique, c'est faire de l'ethnobotanique, c'est faire de la cuisine, c'est aussi profiter de, des petits secrets de personnes qui sont là. Et bon, on a vu la Dougine qui est quelqu'un d'âgé, et je veux dire Mathieu qui est très jeune et porteur de cette culture, les personnes qui sont porteuses de cette culture, il y en a beaucoup, et je pense qu'il faut profiter de toutes ces richesses, et ce, ce partage-là, bien sûr, ça peut rassembler à l'école, mais ça peut rassembler dans la société. Là, on a quelqu'un qui est venu nous écouter, qui a lancé un café provençal il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui parle, qui commence à parler la langue, qui lance un café provençal, qui toutes les semaines à Aix arrive à rassembler des locuteurs, des non-locuteurs sur un thème, on change de thème à chaque fois, on se retrouve dans un café, on commande des tapas et on parle pendant 2 heures en provençal, bien sûr, ça peut rassembler, c'est là pour rassembler.
Est-ce que la langue rassemble ça, la langue provençale, la culture provençale rassemble, je pense qu'à travers les exemples que j'ai donnés, elle ne peut que rassembler. Mais avant toute chose, je voulais dire aussi, vous avez parlé aussi de volonté politique. Et je pense que c'est un petit peu le souci, c'est que s'il n'y a pas une volonté politique, nous par exemple à la Ciotat, la volonté politique, c'est entre les mains d'une seule femme qui a décidé de développer la culture provençale, si demain là, est-ce qu'il y aura une continuité, est-ce qu'on va pouvoir continuer d'abreuver les enfants de cette culture-là, ou est-ce que ça va s'arrêter, c'est ça qui est complexe, donc à nous de réfléchir et de se dire comment on peut continuer sans l'appareillage politique, c'est-à-dire l'appareillage associatif, comment on peut développer cette culture-là. Moi, je voulais dire juste un dernier mot, remercier Marie-Lenetti et M. Vardiani de m'avoir invité, que j'étais très fier d'être ici. C'est grâce aussi à cette culture provençale que je suis ici, alors que je ne parle pas du tout dans la France. C'était pour moi quelque chose d'assez abstrait. J'ai appris à connaître cette culture-là en portant le projet. Voilà.
Elle rassemble si on la recrée. C'est-à-dire qu'on part vraiment du traditionnel, mais après il faut la rendre nécessaire et assez forte et levée pour recréer. C'est pour ça que moi je travaille toujours à partir des séries américaines du rock. C'est pour ça qu'il y avait, par rapport à ce qui était écrit, sur le, d'accord, il y a le côté consommation de la culture, mais on peut se servir de ça, justement, de se servir du manga, de la série américaine. Il y a des choses très très chouettes. Et du cinéma même commercial américain pour s'en servir et recréer. Et surtout, voilà, c'est ce que vous faites, c'est qu'elle soit présente dans la cité. Donc nous, on est en train de créer une journée de cinéma provençal, ou du cinéma provençal qui accueille les autres cinémas du Sud. Créer des concerts, faire rencontrer les chanteurs qu'on a, faire venir les humoristes dans les écoles, par exemple, ce qui se fait beaucoup, et créer des spectacles. Et puis, bon, moi, en étant à Orange, la culture, elle a besoin de ça pour vivre. Je veux dire, dès qu'on enclenche quelque chose, on découvre des familles. J'ai découvert des acteurs de Caderousse qui m'ont prêté plein de décors, qui dormaient des pièces de Marquion. Ils m'ont aidé à monter une pièce de théâtre. Et puis j'ai vu qu'il y a plein de gens qui connaissaient ce dramaturge local. Et on en a fait une belle pièce avec une chorégraphie italienne. Et on a eu du monde. Et voilà, alors dans les petites villes, dans les cités, etc., il suffit d'une personne de déclencher quelque chose pour que les associations, etc., revivent. Et la langue est ici, la langue est parmi nous, et ça rassemble. Voilà.
Voilà, et puis je pense qu'il suffit de donner l'envie. Parce que si on peut parler du projet des Cantés Jazz, c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie. Les gens qui en sont à l'origine, les musiciens, les organisateurs mettent beaucoup d'énergie. Mais dès que c'est lancé, il y a les enfants qui suivent, les familles qui suivent. Et là, au début de l'année, la question c'était mais pourquoi il n'y a pas des Cantés Jazz de toutes les années ? On leur a expliqué que ça serait trop, mais c'est attendu, quoi. Donc l'année prochaine, toutes les familles sont prêtes et ils attendent le répertoire. Voilà.
Oui, je dirais que la langue d'oc, l'occitan, se prête beaucoup justement à être un support privilégié. Et parce que, au fond, ce qui en constitue les défauts peut être retourné en qualité. Autrement dit, c'est une langue qui souffre d'un manque de standardisation, d'un côté. Donc, on se posait la question tout à l'heure en coulisses de savoir, quand on a affaire à un public qui ne connaît pas, un public de néo-locuteurs, quel occitan, quelle langue d'oc leur enseigner, quelle variété. Hein, voilà. Et en même temps, donc, si vous voulez, c'est un problème hein, de certain côté, et d'un autre côté, justement, la langue de l'occitan est en soi l'exemple même de la variété, de la possibilité d'intercompréhension linguistique, mais d'intercompréhension aussi culturelle.
Et avant de clore, et pour clore, je vous propose de lire un extrait d'intervention de Albert Jacquard, donc c'est généticien là, qui nous a guidé il y a 20 ans, et qui s'adressait justement aux enseignants. En tant qu'enseignants, nous sommes interrogés sur la finalité de tout ce que nous enseignons. À quoi sert d'apprendre l'histoire et les mathématiques? Certainement pas à passer des examens. Au fond, l'utilité la plus noble de tous ces savoirs et qui constitue autant de sujets de conversation merveilleux. Cette finalité de l'enseignement rejoint directement la racine étymologique du mot éduquer, qui signifie éduquer, c'est-à-dire conduire hors de lui. Il s'agit de conduire un enfant hors de lui-même, et l'espèce humaine est la seule qui en soit capable. Je crois que là, il y a vraiment une synthèse de tout ce qu'on a essayé de débattre et de montrer que le fait d'utiliser de langues implantées sur un territoire qui a une histoire et qui est aussi un vecteur d'ouverture va tout à fait dans cette ligne. Je vous remercie.